La semaine dernière? Ah oui. La semaine dernière, on a eu des conseils pour une vie de prière. Maintenant qu'on a eu les conseils, on va voir comment une prière, agir dans la prière en action. On va le faire au travers un récit de vie, une histoire qui s'est réellement passée, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous avez vu, il y a des Bibles à l'entrée. Si vous n'avez pas de Bible, vous voulez vous suivre, c'est à la page 1034. Ça peut vous aider, peut-être, à savoir où ça se trouve. Est-ce que, quand vous priez, vous voyez Dieu agir? Est-ce que vous attendez à une réponse? Est-ce que vous arrivez à dire assez clairement, c'est Dieu qui a agi? Je ne parle pas de le partager aux autres, parce que vous avez peut-être peur de passer pour un illuminé ou un allumé, mais déjà pour vous-même, est-ce que vous dites, c'est Dieu qui a répondu à ma prière? Pierre et l'Église ont prié. Et je vous propose de lire ce récit qui se trouve dans l'Acte, au chapitre 12. Et nous irons un peu plus loin que les versets 11. C'est pas la dernière version du diapo, donc on ira jusqu'au verset 17. Commence la lecture. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par deux chaînes, dormait entre deux soldats et devant la porte de la prison des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons !» poursuivit l'ange. « Mets ta ceinture et attache tes sandales !» Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit. Sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel, il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors, seulement Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal qui voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante, appelée Rhode, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre! Il est là, dehors, devant la porte! Tu es folle !» lui dirent-ils. Mais elle n'en démordait pas. « Alors, c'est son ange !» dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tous étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. On pourrait avoir un scénario de film, avec une situation, Pierre en prison, la catastrophe. Tout d'un coup, un ange arrive, une délivrance, comment ça va se finir? C'est un peu un suspense. Et en fait, vous avez peut-être remarqué, on parle de prière. On a juste une fois la mention de prière. Mince, il a mal choisi son texte, le gars. Regardons un petit peu plus de ce texte. Pierre est en prison parce que Hérode aime mettre des chrétiens en prison et parce que ça plaît aux juifs. Hérode a déjà fait tuer Jacques et il est content. Et Pierre, il l'embarque aussi pour le faire tuer. C'est le cheminant qui va suivre pour Pierre. Normalement, c'est la mort. A priori, même a posteriori, Pierre est en prison sans raison valable. Il n'y a pas une condamnation spéciale. Pierre est en prison et dans une prison assez sécurisée. Il n'est pas dans une simple maison d'arrêt avec juste une petite porte sympathique. Non, non. Il est enfermé dans une prison très haute sécurité avec triple fil barbelé électrique, 16 personnes juste pour lui, 2 qui dorment à côté de lui, et c'est pas fini. Il est attaché par 2 chaînes aux mains. Il y a des sentinelles devant la première porte, d'autres devant la seconde porte. Ensuite, il y a une porte en fer, donc c'est bien précisé qu'elle est solide en fer, qui mène à la ville. Comme diraient les inconnus, pas possible que t'en réchappes. Aucun moyen de sortir de cette prison. Et au même, je suis sûr qu'il y avait des filets anti-colis et anti-évasion. Aucun moyen humain pour sortir de cette prison. C'est impossible. Et dans ce scénario impossible, on a une petite phrase, verset 5, « Mais l'Église priait ardemment en faveur de Pierre. » Et l'auteur reprend le fil de l'histoire. Hérode allait le faire comparaître après. Et l'histoire bascule. Tout à coup, une délivrance miraculeuse. Un ange du Seigneur arrive. On se demande comment il va faire. Ça paraît impossible dans cette prison de sortir. Un ange arrive. Le héros pour Pierre, a priori. C'est pareil. L'ange arrive, réveille Pierre, mais pas les nouveaux compagnons de chambre de Pierre. On peut supposer que l'ange ou Dieu a endormi un peu plus profondément les gardiens. Je dis que ça paraît quand même difficile de pas se réveiller, même pour un père de famille en manque de sommeil, de pas se réveiller quand vous avez une lumière intense qui allume la chambre, quand les chaînes tombent des mains de Pierre, donc qui doit faire un bruit énorme, à mon avis, ce n'est pas des chaînettes, hein. Ce n'est pas des vraies chaînes bien lourdes qui lui tombent des mains, qui tombent d'un mètre, boum, ça ne réveille pas les gardes. Pierre s'habille, il met son manteau, il met ses sandales, il discute avec un ange, en tout cas un ange parle, il obéit. Et en plus, vous êtes plusieurs gardes et personne ne se réveille. Tout ce qui empêchait Pierre de sortir de prison tombe, tout s'arrête. Il passe le premier point de contrôle, pas de problème. Deuxième point, pas de problème. Et il sort de la ville. L'ange a peut-être trafiqué les caméras de surveillance. Il a pris des photos avant, il les a postées. Vous avez vu comme dans les films, là, on l'accroche devant. Pour pas que les gens de sécu à poste de garde voient qu'il y a quelqu'un qui sort. Ou peut-être qu'il a lancé un caillou dans le buisson pour faire diversion. En tout cas, l'ange et Dieu ont mis des choses bizarres en place pour que la délivrance pour que Pierre sorte de cette prison haute sécurité. L'ange et Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, fait quelque chose d'impossible. Et Pierre ne s'en rend pas compte. On nous l'a dit, hein, Pierre croit avoir une vision. Et après la délivrance, une fois que Pierre est sorti, il y a une prise de conscience. Pierre prend conscience et l'Église prend conscience. Au verset 9, il est dit clairement que Pierre pensait avoir une vision, un rêve. Et c'est après qu'il revient à lui. C'est après qu'il pense, qu'il réfléchit. Étonnant. Pierre a déjà vécu des choses extraordinaires quand il était avec Jésus. Il a été avec Jésus pendant la transfiguration. il a été avec Jésus quand celui-ci a fait des miracles. Il a lui-même été un agent pour des miracles. Pierre, dans le récit des Actes, a aussi vécu une extase, vous verrez le chapitre qui précède, chapitre 10 ou 11, où Dieu lui dit, il montre les animaux, il va lui dire de tuer et manger les animaux, pour lui faire comprendre que l'évangile aussi pour les non-juifs. Pierre a l'habitude, a déjà vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et encore là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et après, une fois sorti, il dit « Ah ouais, en fait, c'était vrai. » Ça lui paraissait trop beau pour être vrai. Il est émerveillé des miracles que Dieu fait. Et il dit au verset 11 « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » C'était impossible pour Pierre. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait sortir miraculeusement de cette prison. Il a fait tomber les chaînes physiques et autres. Il a tout fait tomber pour que Pierre sorte de prison. Pierre est quelque part troublé de voir Dieu agir. Pierre s'émerveille. S'émerveille de voir Dieu agir et continue de s'émerveiller de voir Dieu agir. Et là, il n'a pas d'autre choix que de reconnaître la main de Dieu. Il est sorti de prison, c'est un fait. Il est libéré. Il reconnaît Dieu. Et il prend conscience de l'amour de Dieu pour lui. Après, il s'en va. Il se dit peut-être, je vais quand même retourner voir les autres. Et, je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein. Il sort une phrase comme ça. Après réflexion, après avoir réfléchi, a repris ses esprits, il va voir ses frères et sœurs, l'Église. Et l'Église, c'est pareil. Ils se disent, pareil que Pierre, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Quand Pierre frappe à la porte, vous avez vu qu'il n'y a pas d'interphone avec une vidéo. La servante reconnaît la voix de Pierre. Elle court l'annoncer et oublie même d'ouvrir la porte. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu les images, enfin, vous arrivez à visualiser la scène. Quelqu'un frappe à la porte, elle écoute comme ça un petit peu. Et puis elle part annoncer aux autres. Mais il y a Pierre. Et Pierre, il continue, il frappe, et personne n'ouvre. Comme un flanc, il se retrouve dans la porte. Et les gens lui disent même à la servante, tu es folle. C'est pas possible qu'il sorte Pierre. Et si, ils lui disent même, tu as perdu la raison. Il est trop bien gardé dans sa belle prison, haute sécurité, sans télé. Il n'a pas pu en sortir. Ils ouvrent et sont vraiment étonnés de voir Pierre. Mais vraiment, surpris. Surpris, Dieu a répondu à leur prière. Comme si c'était nouveau en fait. Ils ont déjà prié pour des choses aussi. Et là, Dieu répond encore à la prière. Et ça leur montre que la prière, rien n'est impossible à Dieu dans la prière. Pour eux, c'était impossible de sortir. Ils s'en remettaient à Dieu. Mais pour Dieu, c'est possible. S'il est le Créateur, s'il est le Dieu de l'univers, s'il est le Seigneur des armées. Comme je l'avais déjà dit l'an dernier dans la série qu'on avait fait sur la prière, l'Église prie Dieu, car elle est consciente que Dieu est compétent pour les aider, que c'est la personne qu'il faut, la personne dont ils ont besoin pour que Pierre soit délivré de prison. Ils vont pas voir le boulanger ou le garagiste pour réparer les chars. Non, ils vont voir Dieu pour lui demander de libérer Pierre de prison. Ils vont voir El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alors, on se demande, mais pourquoi ils sont surpris? Intellectuellement, ils savent que Dieu est le Créateur, et comme je le répète, il est tout-puissant. Mais quand même, on le sait, mais ça ne veut pas dire que quand ça arrive, nous ne soyons pas surpris de ce qui se passe. On sait que Dieu est le créateur. Mais quand il le fait, on est touché par nos émotions et par notre ressenti. Et moins par notre pensée, notre intelligence. Ça s'éprouve. Nous éprouvons. On dit que Dieu est bon. Il nous aime. Et on l'éprouve au quotidien par des gestes, par des actions de Dieu. Ils le savent et ils l'éprouvent. Ou ils l'approuvent aussi. En tout cas, ils mesurent par leur vie la bonté de Dieu envers eux. L'Église est consciente que Dieu est compétent. Et c'est pour ça qu'il prie avec insistance, avec ferveur. Confiance que Dieu va réaliser les choses. Un Dieu qui dépasse. Qui dépasse ce qu'on pourrait nous-mêmes penser. J'ai tendance à penser que la situation paraît tellement impossible pour en sortir que Pierre, c'est impossible qu'il sorte. Je reprends. J'ai vraiment la pensée que Dieu a fait en sorte que Pierre ne puisse pas sortir de la prison pour montrer à quel point il est fort. Pour pas qu'on dise « Ah, c'est les hommes, oui, mais en même temps, bon, la porte, c'était de la paille. En même temps, c'était des soldats de plomb qui gardaient la porte, ou je sais pas. » Mais pour montrer vraiment la puissance de Dieu qui est derrière. On voit que rien n'est impossible à Dieu. Et nous, on se limite des fois dans nos prières. On se limite à proposer, à soumettre des sujets à Dieu, des demandes. Nous sommes assez timides de prier pour des guérisons. Même si on sait que Dieu fait ce qu'il veut. Nous sommes des fois assez timides pour prier pour que Dieu régule des situations conflictuelles dans nos familles. Et pourtant, on sait que Dieu est puissant. On peut être timide de prier pour que Dieu envoie plus de dons financiers pour qu'on finisse le 106 demain avec des entrepreneurs, avec la totalité. Là, je dis qu'il ne faut pas oublier que Dieu retient la solution qu'il a envie. Ça ne veut pas dire que quand on prie, Dieu va agir. Que Dieu va agir selon sa volonté. Sa volonté, c'est celle qui va faire en sorte que plus de personnes se tournent vers lui et que les personnes qui sont déjà vers lui puissent encore grandir avec lui. La volonté de Dieu, c'est de rétablir la relation entre le monde et lui et rétablir les relations entre humains par lui. Et Dieu va retenir la solution qui rentre plus dans ce plan-là et qui ont plus le glorifier. Mais nous pouvons quand même demander des choses qui nous paraissent impossibles à Dieu. Et nous ne devons pas être timides de les demander. Souvent, nous sommes timides parce qu'on a peur du résultat. Et on se dit, mais en fait, s'il n'a pas répondu, c'est que je n'ai pas assez de foi. On ne veut pas non plus creuser plus la solution. Pourquoi Dieu n'a pas répondu? Et des fois, nous devons quand même prier avec plus de conviction, il me semble, avec ferveur, en pensant que Dieu va agir. Et s'il n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'on a une foi pourrie, ou une foi médiocre, ou petite. Ça veut seulement dire, des fois, que ce n'est pas la solution que Dieu veut retenir. Pourquoi l'ange est venu? Parce que l'Église a prié, tout simplement. L'Église priait avec ferveur, avec insistance. Tout à coup, l'ange arrive. Quelques remarques. Quand il est question de l'Église, ce n'est pas juste 2-3 personnes qui sont là. Déjà, au début des actes, quand on parle qu'ils sont dans la maison, dans la chambre haute, c'est une église où il y a 120 personnes dans une chambre haute. Voilà. Pour mettre en perspective, ce n'est pas juste 2-3 personnes qui sont là, c'est l'Église. Un nombre quand même considérable de personnes. Elle priait avec ferveur, avec ardeur. On ne sait pas trop le contenu de leur prière. On a juste une phrase pour nous dire qu'ils prient. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Quelle était leur motivation? Est-ce que c'était des saines motivations? On ne sait pas. Parce que Pierre était quand même un pilier de l'Église et quelqu'un d'important. Donc si Pierre Et Jacques, qui est déjà mort avant, meurt. On est un peu dans la misère, hein. Humainement, on pourrait se dire ça. Ça pourrait être une de leurs motivations. On ne sait pas, en fait, les motivations qui les a poussés à prier. On sait juste qu'ils priaient en faveur de Pierre. Et il y a un lien assez fort entre le texte. Il prie, l'ange arrive. Et l'ange arrive pour le délivrer. On peut supposer assez fortement que l'Église priait pour la libération de Pierre. Pourquoi il voulait que Pierre soit libéré? On ne sait pas pourquoi. En tout cas, Dieu a répondu à cette prière. Je vois que l'Église prie. L'Église prie. Donc on a deux événements. Il est question de la Pâque, la fête des pains sans levain, et début de l'Église là, les fêtes étaient réunies. On commençait par la Pâque, et puis il s'en suivait 5 jours de la fête des pains sans levain, où il y avait une correspondance. Donc ils ont pas prié. Ça veut pas dire qu'ils ont prié pendant 10 jours, que le temps restreint là. On est sur une période de 7 jours. Donc ils ont prié. Peut-être c'était une semaine de prière. Pour eux, c'était peut-être ça, hein. En tout cas, ils ont prié dans ce temps-là, pour Pierre, dans ce temps qu'ils avaient. Ça nous montre que Dieu n'est pas loin, et pas caché dans sa tour d'ivoire, et nous regarde à travers sa télévision. C'est pas le Truman Show. Vous avez déjà vu ce film avec Jim Carrey. Dieu est pas là-haut, il nous regarde à travers un écran. Dieu s'implique, et Dieu répond. Il est descendu sur terre, on le répète, il est descendu sur terre pour nous montrer à quel point il voulait être en relation avec nous et qu'il nous aime. Il s'est impliqué en allant jusqu'à la mort et la mort à la croix. Dieu peut agir et agit quand on lui demande. Il attend que nous lui demandions les choses. Il est clair que Dieu fait ce qu'il veut, mais il attend quand même nous impliquer, être en relation avec nous. Et il souhaite agir avec nous et pour nous. Cette histoire vraie, tirée de faits réels, nous invite à prier et demander à Dieu d'intervenir. Elle nous invite à lui faire confiance, car il est le Dieu qui peut faire des choses impossibles à nos yeux. Cette situation, cette histoire nous invite à nous émerveiller et à rester émerveillés de ce qu'il a fait. J'espère qu'à travers cette semaine de prière, déjà on se souvienne des sujets qu'on a évoqués, ça c'est souvent plus compliqué, on se souvienne et qu'on puisse continuer de prier avec ferveur et à s'attendre à des réponses de Dieu, à s'attendre à des solutions. Quand Dieu répond, nous nous émerveillons de Dieu. Nous sommes heureux de lui appartenir. Nous lui faisons encore plus confiance parce qu'on a vu qu'il répondait. Si on ne remarque pas quand il répond, du coup, on se dit, mais pourquoi on va pas trop s'émerveiller? De toute façon, il ne répond pas. Ou on a plein l'impression qu'il répond. Donc, prendre du temps pour regarder comment Dieu répond nous aide à nous émerveiller de Dieu, de l'amour de Dieu envers nous. En résumé, il faut prier pour attendre des réponses de Dieu, pour attendre d'être connecté de toujours plus avec Dieu. Je vous propose de prendre un temps en écoutant le chant « Compte les bienfaits de Dieu » et de vous laisser renouveler, interpeller par Dieu à travers ce chant. La technique, ça marche bien. C'est pas de leur faute. Je vous propose de prendre de toute façon un temps de calme pour vous laisser interpeller par le Saint-Esprit.
Quand le vol de la tempête. Viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous dehors.